Sur une proposition des services de l'État, Radio Libre en Périgord vous présente un grand débat en quatre volets sur les addictions. Aujourd'hui, le troisième volet nous conduit vers l'addiction aux écrans dits bleus. Préparé et présenté par Anthony Terrade et Christian Dardelet. Anthony, bonjour.
Bonjour.
On est réunis avec des invités et des invités également qu'on aura par téléphone tout à l'heure. C'est une émission qui paraissait tout à fait anodine au départ et en fait est extrêmement fournie.
On a mis du temps à la préparer.
C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, contrairement à ce que les auditeurs peuvent penser, que les précédentes sur l'alcool et sur le cannabis. Alors autour de nous, on a Madame Sandrine Latouresse, vous êtes psychologue du CEID.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est le CEID, rappelez-nous?
Alors, le CEID, c'est un XAPA, c'est un centre de soins dans le domaine des addictions, en addictologie.
Générale.
Exactement. Donc, toutes les addictions sont présentes. Voilà, on reçoit un peu toutes...
Et puis, à ma droite également, j'ai un psychanalyste, M. Joseph Zudas, que les auditeurs connaissent, puisque vous êtes également confrère à la radio.
Oui, bonjour.
Alors, sur les écrans bleus, vous imaginez bien que tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, sur les émissions précédentes, on a parlé d'addiction, et les addictions qui étaient par ingestion, c'est-à-dire qu'on mangeait des substances, absorption de drogue, absorption d'alcool, et là, selon la lumière, c'est un petit peu particulier. Alors, il va falloir rappeler un tout petit peu des données physiques à la lumière. Eh bien, on ingère bien quelque chose. En effet, la lumière, c'est de l'énergie. Ben, quand vous prenez un bain de soleil, vous bronzez. Et pourquoi? Parce qu'il y a des particules chargées, qu'on appelle, alors là, les physiciens vont se régaler, ça s'appelle des photons. Et en fait, ces photons, eh bien, c'est le côté énergie de la lumière. La lumière, elle se décompose en plusieurs couleurs. Regardez, quand il y a de la pluie, vous voyez un arc-en-ciel, eh bien, vous avez des couleurs qui sont vertes, qui sont bleues, qui sont jaunes, qui sont rouges, qui sont violettes. Eh bien, la couleur bleue fait partie, dans le spectre, justement, de la lumière blanche, eh bien, d'une partie de cette lumière. Alors, on se demande pourquoi, effectivement, la lumière bleue, au niveau médical, eh bien, peut perturber les esprits, c'est le cas de le dire. Une partie de la lumière bleue, la lumière dite claire, le bleu ciel, le bleu clair, eh bien au contraire va être très apaisant, puisque en luminothérapie, on en parle beaucoup, pour s'endormir, il paraît que c'est tout à fait agréable, c'est comme un petit massage le soir au coin des bois avec les petits oiseaux. Et puis il y a la lumière dite sombre, qui est juste avant l'ultraviolet, avant le violet et l'ultraviolet, et ce bleu foncé, eh bien au contraire, va bloquer la possibilité de s'endormir, va vous donner des ailes, et c'est ce qui se passe justement quand on joue à des jeux vidéo, ou quand on fait beaucoup d'ordinateurs, ou qu'on est complètement plaqué devant son smartphone, eh bien ce sont des radiations qui peuvent, j'allais dire détruire, mais complètement vous faire déménager le cerveau. Monsieur Zudas va nous en parler d'ailleurs, parce que je crois que, comme ma voisine Sandrine Latouresse, vous soignez des gens qui sont addicts. Et le problème aussi, c'est que souvent, c'est comme un peu l'alcool et comme le cannabis, ils ne veulent pas avouer qu'ils sont addicts.
Oui, je vais répondre un peu rapidement sur la question de la lumière. Ce matin, sur une chaîne de télé publique, on apprend qu'avec la lumière, on va guérir les dépressions, que c'est très scientifique. Alors, tous les jours comme ça, on entend des choses. Je dois dire que moi, j'ai affaire comme analyste. Vous savez qu'on a créé avec des collègues un centre de consultation pour des gens qui viennent, en grande précarité aussi. On reçoit des êtres pulsionnels. L'énergie, c'est un concept que Freud avait utilisé à un moment donné, qu'il a abandonné au profit des pulsions. Et la fragilité, c'est qu'ils ne savent pas bien, parce que tout se passe dans le corps, à l'âge où ils viennent, ils ne savent pas bien quel objet donner à ces pulsions. Et évidemment, la consommation en donne plein. Ils rentrent là-dedans. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste d'alcool. Je reçois des sujets singuliers, chacun a une histoire, comme s'il suffisait d'avoir la même réponse pour tout le monde.
Autrement dit, vous le traitez en cas par cas.
Voilà, mais surtout en écoutant, Parce que, dans un premier temps, il me semble que, à cette question qu'on se pose tous, qu'est-ce que c'est que la jouissance de la vie, on a à répondre. On fait des formations, des... Ces sujets, ils répondent avec le jeu vidéo. Voilà, ça les accapare dans leur histoire.
Alors, on a deux personnes, donc on a un psychanalyste, une psychologue. Parce que votre discours, Joseph Zudas, pourrait être un peu le même discours qu'un psychologue. Quelle est la différence
Je vais laisser répondre ma collègue.
Alors, la différence, ça, c'est pas moi qui vais vous la donner.
Vous marchez sur les mêmes plates-bandes, là.
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai plutôt tendance aussi à penser que, au-delà des addictions, ce qu'il va s'agir de repérer, c'est ce qui se passe vraiment pour la personne qui vient nous rencontrer. Et peut-être que ce qui est signalé autour des jeux sera un signe. Et qu'on ira un petit peu plus avant sur ce qui se passe avec la personne autour de ça. Ça va être une petite alerte, on va dire, dans un premier temps. Après, est-ce que c'est vraiment une addiction ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est déjà un signe de quelque chose. Après, l'important, c'est qui c'est qui tire la sonnette d'alarme ? Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est la famille ?
Alors, Anthony, vous avez été enquêté auprès de l'AMPA.
Alors, moi, je suis parti à la rencontre de Pierre Demelenard. Il est chargé de prévention à l'ANPA. Donc, l'ANPA, c'est une association qui travaille toute l'année sur la prévention et sur l'accompagnement contre les différentes addictions, un peu comme le CEID. Et il nous a parlé, donc, du coup, sur les jeux vidéo, le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter un document de 6 minutes et on se retrouve juste après.
Pierre Demelenard, chargé de prévention à l'ANPA 24. Je m'occupe de la sensibilisation, de la prévention et de la réduction des risques auprès de tout public. À partir du moment où la personne vient de prendre un rendez-vous, donc du coup, nous, automatiquement, notre secrétaire va caler ce rendez-vous avec soit notre infirmière, soit notre conseillère d'économie sociale et familiale, notre CESF. Ce sont elles qui font les premiers rendez-vous. Une fois que ce premier rendez-vous va être fait avec une de ces deux spécialistes-là, elles vont juger quels sont les besoins de la personne. Si cette personne a besoin directement de rencontrer un médecin, ou des consultations avec l'infirmière, ou consultation de psychologue, ou d'être réorientée. L'addiction, pour la définition, globalement, c'est de perdre la liberté de s'abstenir d'avoir un produit. Donc à partir du moment où j'essaye d'arrêter un comportement et que je vois que ça modifie mon état à moi, que je suis plus stressé, que je suis plus en colère que d'habitude, que j'ai moins envie de rencontrer les gens, je peux déjà souligner que j'ai un manque à un comportement, éventuellement une addiction, si... mon comportement commence à forcément être tourné vers le produit avant tout. Pour les addictions aux jeux vidéo, le public c'est globalement 17-30 ans pour la majorité. Même si maintenant on a une parité de joueurs depuis une dizaine d'années en France, on a autant de filles que de garçons, plus souvent les garçons qui sont touchés quand même par l'addiction. Pour les jeux vidéo, globalement. Les types de jeux vidéo vont être différents pour certains styles de personnes qui vont être différents, ils vont pas rechercher la même chose. L'accompagnement, c'est un contrat qu'on passe avec la personne, c'est ce qui est très compliqué. Pour n'importe quelle addiction, y compris pour celle du jeu vidéo, ça doit se faire avec la volonté de la personne. Nous, on peut rien faire sans. Si la personne, pour le moment, n'a pas encore conscience de son addiction, elle vient, elle sait qu'elle a des soucis dans la vie, elle sait que... sa possible addiction au jeu vidéo est un facteur, mais peut-être pas le facteur prépondérant pour elle. Nous, là, on va jouer, c'est sur sa balance motivationnelle. Essayer de réguler pourquoi est-ce qu'elle aime jouer, pourquoi est-ce qu'elle aimerait arrêter, et essayer de faire jouer cette balance et de la faire peser dans la direction du motivation à arrêter. Une fois qu'on a ça, là, du coup, on va pouvoir essayer d'accompagner la personne avec elle, en lui donnant des conseils, des objectifs, jour après jour, des journaux par écrit à tenir si nécessaire, si ça veut fonctionner, aller chercher de l'aide avec des gens autour d'eux. L'entourage est fondamental. Nous, on est là pour proposer une aide professionnelle, mais l'entourage de la personne a un rôle fondamental.
Un cas plus compliqué que d'autres ?
Oui, ben forcément, nous, ça va être le quotidien qu'on a, c'est des gens qui sont dans le déni. Tout simplement. Des gens pour qui ils vont peut-être admettre qu'une addiction est un facteur de leurs problèmes, mais que c'est pas le facteur prépondérant. Et là, du coup, nous, il faut qu'on s'arme de patience, il faut qu'on essaye justement de faire jouer sur cette balance motivationnelle pour montrer à ces personnes qu'il y a plus d'arguments d'arrêter que de continuer et que c'est une des causes majeures de leurs produits, sachant que très majoritairement, Pour les jeux vidéo, peut-être un peu différemment, mais quand même, on a très souvent des polyconsommateurs qui vont pas consommer uniquement un produit, qui vont pas uniquement jouer aux jeux vidéo, qui vont avoir d'autres comportements addictifs qui vont s'en suivre. Et y a une balance qui s'effectue. Si on en arrête un, si on réduit une addiction, elle peut se transférer sur l'autre. Donc ça aussi, ça peut être compliqué à gérer.
Il arrive des fois que ce soit pas la personne concernée directement qui prenne contact avec vous ?
Absolument, oui. Un quart des personnes qui viennent nous voir, plus de 25%, sont des personnes de l'entourage, qui n'ont pas de problème directement, eux, qui ne sont pas concernés par une addiction, mais ils ont vu des amis, des collègues, des enfants, des parents, des frères de l'entourage touchés, et ils se trouvent un peu démunis à répondre. Donc nous, c'est une de nos missions, c'est réellement aider l'entourage à pouvoir répondre à des questions, à pouvoir aiguiller la personne, à pouvoir en parler, parce que c'est très compliqué. Même si ça a l'air d'un sujet relativement simple, pour les jeux vidéo, ça peut être très compliqué de trouver les mots, en particulier avec les jeunes parents, les parents tout court. Je suis sur le terrain très très souvent. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de collèges. On va établir de nouveaux contacts avec des écoles à Bergerac. On était sur un lycée à Bergerac également. Voilà, pour essayer d'établir de nouveaux partenariats, faire de la prévention, c'est-à-dire voir différents âges. Donc au collège, on voit beaucoup de 4e, beaucoup de 3e. On fait prévention, sensibilisation sur différents thèmes. Dont évidemment le thème des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des paris en ligne également, voilà. Ils sont très friands de ces questions-là, même si les ados ne vont pas directement attaquer par ces sujets-là, parce qu'ils ont d'autres sujets qui sont un peu plus brûlants à leurs yeux, mais forcément, quand leurs parents leur en parlent tous les jours, ils vont l'amener sur la table devant nous et ils le font. Après, il y a des publics qui sont plus ou moins touchés d'autres, s'il y a plus ou moins d'accompagnement parental, voilà. C'est là où on voit la différence très souvent d'une possible addiction et possible dérive d'un comportement addictif. Nous, en collège et en lycée, on s'efforce toujours d'avoir des partenaires sur place, très souvent les infirmières, qui sont là justement en tant que personnel relais. Elles vont pouvoir déjà faire un gros boulot de détection, et puis après, elles peuvent nous passer le relais en donnant directement des rendez-vous. Chez le public adolescent, c'est assez compliqué. Nous, on a une consultation jeune consommateur qui est juste ici à Périgueux. On accueille les 12-25, on essaie de les accueillir assez rapidement, parce qu'on sait que quand ils vont prendre un rendez-vous, alors très souvent, ils le prennent sous l'influence d'un adulte, hein, ils ne le prennent pas tout seuls, mais quand ils viennent, on sait qu'on doit on doit parler avec eux très rapidement, parce que du coup, leur motivation est très changeante. Et donc du coup, il faut faire assez rapidement pour eux. Donc eux, voilà, vont être relayés très souvent par les infirmières s'ils sont encore en milieu scolaire.
Contact, numéro de téléphone, ouais. Adresse, quelles sont-elles ?
Alors du coup, directement sur le site de l'ANPA, c'est une grosse structure qui est nationale, l'ANPA. Mais si on tape directement ANPA, ANP2A 24, on va directement trouver les trois adresses qu'on a à Périgueux, à Bergerac et à Sarlat, où on a trois centres de soins. La prévention ici est basée à Périgueux, mais on se déplace avec ma collègue sur tout le département. Et donc du coup, c'est pour la prévention à Périgueux et pour le centre de soins tout court à Périgueux, on a un numéro de téléphone, c'est le 05 53 07 66 82. Et une adresse email, parce qu'on a aussi pas mal de requêtes par email évidemment, anp2a24@anp.asso.fr.
Donc, comme on a pu l'entendre, il y a quelques sujets où ça rejoint ce que vous aviez dit, Sandrine Atouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit ?
Avec tout, peut-être pas, non.
Par exemple,
la question du glissement des addictions me semble peut-être un peu rapide à mon goût, c'est-à-dire de se dire que finalement, si on a quelqu'un qui va présenter quelque chose comme une problématique autour des jeux vidéo qui aurait un glissement, il me semble que c'est ce que j'ai compris, sur d'autres produits qui seraient donc des addictions plus généralistes. Moi, je n'ai pas rencontré ça spécialement. Enfin, il me semble que c'est plutôt des domaines qui sont un peu différents. C'est quand même assez récent finalement qu'on ait ajouté les addictions, les jeux vidéo dans le
Absolument.
Domaine des addictions. Et c'est même controversé encore. Donc, et c'est quand même pas tout à fait les mêmes modes d'action.
C'est l'OMS.
C'est l'OMS en 2018, oui. Ouais.
Alors, vous dites que c'est controversé. Si je vous dis, je passe 11 heures par jour à jouer à un jeu vidéo où on doit aligner des pendus, et quand je vais dans la rue, je n'ai qu'une idée, c'est de moi-même reproduire et de pendre le voisin. Je suis addict ou je ne suis pas addict ?
Alors là, vous viendrez me voir, je vais vous trouver un petit rendez-vous.
Je suis malade, ça c'est certain.
Il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer d'étudier ça voilà. ensemble.
Alors,
est-ce que c'est une addiction aux jeux vidéo ? À mon avis, c'est... on va aller un petit peu au-delà de ça.
C'est encore
on va
pire,
un peu s'en détacher.
J'ai quelques chiffres devant moi. Quelques chiffres qu'on a pu trouver. Donc, seul un tiers des Français reconnaissent être dépendants aux écrans. Pourtant, ils sont 60% à admettre que se passer de leur téléphone plus une journée est totalement impossible, dont 37% qui ne pourraient pas s'en passer plus une demi-journée. Après, les Français considèrent y passer en moyenne 4 heures et 6 minutes par jour, sans distinction entre cadre professionnel ou privé. Les autres chiffres, donc l'usage croissant des écrans occupe le devant de la scène médiatique et préoccupe de plus en plus les Français. Donc ça, c'est un sondage de l'IFOP qui date de 2012. 71% pensent que cet usage nuit à la qualité des relations. 69% sont préoccupés par la présence des écrans dans la vie de leur enfant. Et 59% se considèrent comme dépendants. Après, 70% utilisent leur smartphone en conduisant, donc appel, SMS, GPS. 46% téléphonent deux fois plus qu'il y a 15 ans, 34% paramètrent leur GPS, 25% envoient ou écrivent des SMS. Vous en pensez quoi de ces chiffres,
alors,
Joseph Sudas ?
Écoutez, je pense d'abord qu'on ne va pas se laisser disperser par toutes les réponses, il y en a tous les jours. On voit bien aussi que la vérité comme statistique gagne du terrain. Maintenant, on vous dit, tais-toi, c'est ça. Voilà, bon, moi, ça me frappe à terre. Mais des réponses, il y en a. Tant mieux. Moi, je ne vais pas me mettre en opposition à l'ANPA, ils ont leurs réponses. Elles sont comportementales, le mot est revenu. Hein. Donc, je pense qu'avec ma collègue, on n'ira pas de ce côté-là, puisqu'on écoute la parole. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réponse européenne, avec tous les alertes qu'on connaît, du côté de encore plus d'autorité et de maîtrise. Voilà. Et... pourquoi pas l'homme pense avec son cerveau aussi. Récemment, des autorités de santé veulent balayer tout ce qui se passe par la parole pour embaucher des gens qui vont vers la neurologie. Alors, on va mettre des électrodes, ça vous rappelle Orange Mécanique, ça, hein, le film qui a quelques années, mais c'était prémonitoire quand même. Bon, donc, ce que fait l'ANPA, c'est une réponse diversifiée. Ce n'est pas le chemin, et je crois que ce n'est pas celui de ma collègue. Moi, je vais prendre des exemples cliniques. Est-ce que ça vous intéresse ?
Allez-y.
Bon. On a un enfant très jeune qui vient, que je reçois, et sa mère vient un peu alertée parce que chaque fois qu'elle essaie d'interrompre son jeu vidéo, il hurle et elle entend « Tu m'empêches de tuer l'ennemi ». Voilà. Alors, elle a un peu peur quand même. Donc, on discute un peu et... ce gamin, dans les moments où il est chez lui, à l'école, ça fonctionne plutôt bien. Il raconte qu'il s'ennuie, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'on ne lui propose rien. Et petit à petit, il a trouvé ça pour jouir d'une certaine façon.
Ça, on pourra notamment en reparler, je pense, dans le reste, l'émission.
Je finis ça.
Parce qu'on doit continuer.
Je finis ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'alerte de la maman, mais la façon dont lui dit qu'il a trouvé une réponse à l'ennui. Et depuis que je le reçois, il a trouvé une autre réponse. Il dessine et il veut exposer ses dessins.
Donc ce n'est pas une question d'addiction.
Non, mais dans un premier temps, ça peut être qualifié par son médecin qui lui dit... c'est devenu un adjectif souvent emprunté maintenant. Bon, si vous voulez... il y avait une histoire de masturbation aussi en même temps qui était prise là, on l'avait engueulé, et il y a un truc qui l'a amusé, c'est qu'il y a une petite copine qui lui a dit calculette, branlette, quéquette, une copine, ça a été une bonne interprétation qui lui a permis de me parler, vous voyez, et donc il s'est déplacé, parce que ce que je cherche c'est ce déplacement, est-ce qu'il est possible que le sujet trouve une autre réponse?
Alors, pour continuer avec l'ANPA, toujours avec Pierre Demelenard, on a parlé de cette fameuse lumière bleue qu'il y a dans les écrans et dans la vie quotidienne.
C'est ça qui me passionne.
Voilà, on écoute ce document de 2 minutes.
On n'a pas d'addiction directe à la lumière bleue. La lumière bleue, on en voit tous les jours grâce au soleil. Elle est naturelle, elle est dans le spectre, donc il faudrait voir un opticien pour ça ou un ophtalmologue plus précisément, mais globalement, on l'a tous les jours en face de nous. C'est cette lumière qui va nous permettre d'être éveillés, d'avoir notre esprit qui est éveillé, donc du coup de vouloir faire des actions. Globalement, on reçoit un surcroît de lumière bleue, en particulier avec le téléphone, et le problème qu'on va avoir, c'est en particulier quand cette consommation va être proche de la nuit, à un moment où normalement on veut calmer notre esprit, ralentir l'activité cérébrale. Or là, non seulement on reçoit de la lumière bleue, et en plus on va être amené à faire des activités sur un écran, qui vont demander de la concentration, qui vont demander d'être toujours en appuyant avec ses doigts, soit sur la manette, soit sur l'écran. Et donc, du coup, une excitation du cerveau naturellement. Une excitation, ça va assez à l'encontre de la phase d'endormissement. D'où le problème avec un abus d'écran, non pas forcément d'addiction juste avec l'écran, mais par contre d'un manque de sommeil, si on repousse le temps de sommeil, évidemment, et surtout d'une qualité de sommeil qui va être impactée parce qu'on va être excité.
L'écran le plus concerné, le plus dangereux, on va dire ?
Ça va pas être le type d'écran, ça va être le temps qu'on va passer dessus avant tout, voilà. Après, le problème du téléphone, très souvent, c'est qu'il est relativement petit, donc nos yeux sont concentrés dessus, sur une petite surface. Et pour faire une comparaison avec un appareil photo, il faut parfois faire un zoom et un dézoom. C'est pour ça qu'il est nécessaire, toutes les demi-heures, d'essayer de regarder autre part pendant quelques secondes, pour capter d'autres lumières, pour essayer de faire le point avec nos yeux, tout simplement, et pour essayer de se déconnecter aussi. C'est le problème qu'on a avec les jeux, comme pour les, en particulier les jeux en ligne et les paris en ligne, c'est que du coup très souvent c'est un processus qui est continu ou un processus où on va devoir faire des actions toutes les 30 secondes ou une minute. Et donc du coup, si toutes les 30 secondes ou une minute j'ai besoin de faire action, ça maintient mon attention sur ce périphérique-là. Et je me dis en particulier avec des séries que regarder la prochaine série qui fait que 20 minutes, bon, c'est uniquement 20 minutes, plus 20 minutes, plus 20 minutes, plus 20 minutes.
Sandrine Atouris, je vous voyais réagir, vous n'étiez pas trop d'accord sur le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas forcément d'écran en particulier qui soit le plus concerné que d'autres.
Ah oui, c'était des réflexions qui me semblaient après un peu s'éloigner de la question purement des jeux vidéo, et du coup je ne sais pas vraiment répondre à ce genre de choses qui sont en lien avec les écrans. Il me semble que c'est une question quand même d'époque et qu'on est quand même un petit peu là, même dans ce studio. J'essayais de compter combien il y avait d'écrans alors qu'on est à la radio. Et il y en a un qui est fermé, mais il y en a quand même trois ouverts. Je crois qu'en fait, plus les téléphones portables, est-ce qu'on peut échapper à ça? Il me semble que... Oui, voilà. La question...
Comme vous le dites, on travaille avec ces écrans, on vit avec ces écrans. En fait, on ne fait pas en sorte de s'en détacher. Ce n'est pas un peu contradictoire, Joseph Zudas?
Non. Moi, je dis pas... Je connais beaucoup de sujets. Moi-même, par exemple, quand je suis interrogé sur un sujet, c'est Wikipédia, Google, je me sers de ça pour commencer. C'est un savoir universitaire intéressant, un peu chiant, mais on apprend des choses. On apprend des choses. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est quand même la demande de quelqu'un qui est en souffrance. Tout à l'heure, l'exemple pris par notre ami qui dit « je sors, j'ai envie de pendre ». Effectivement, on a affaire là quelque chose d'ailleurs qu'on a du mal à employer parce qu'elle se généralise. On a affaire à la folie,
mais
à quelqu'un de fragile qui peut faire ça à propos de n'importe quoi d'ailleurs. Ça peut être ça, un film. Ce qui est important, par exemple, les jeunes qui vont tirer comme ça. Vous savez, ce jeune qui a donné rendez-vous dans un restaurant aux États-Unis et puis qui a flingué tous les gens invités. Quand on s'intéresse à son histoire sur trois générations, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une histoire, et comment, dans une même fratrie, il y en a un qui va être très fragile et pas les autres. Pourquoi lui, par exemple? Là, on a encore à... Mais vous voyez, vous employez vous-même beaucoup de termes en suivant ce monsieur. Le terme revient, technique, scientifique, la quantité de lumière. De ce côté-là, je vais vous dire, la science, elle est totalitaire. Elle n'envisage pas qu'elle est trouée quelque part, parce qu'elle s'adresse à tout le monde, elle veut trouver, et elle va loin, et il faut des pépins, comme avec les médicaments, par exemple, que tout d'un coup, ça fait un procès, on dit, merde, là, elle ne savait pas. Bon. Les sujets auxquels on s'adresse, ils ont du mal avec ce manque de savoir, et la science leur donne des réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui viennent nous voir ne s'en satisfont pas. Ils mettent en place des ratages, des symptômes, et c'est plutôt ça qui est important. Est-ce qu'on peut arrêter de faire référence aux statistiques, à la science? Parce que ce savoir à l'appel, il y en a plein. On peut parler comme ça entre nous, vous voyez? Ce qui me paraît plus intéressant, c'est ce que vous demandez à Lampa et qui vous répond à partir de ce qui sait lui.
Bien sûr.
Vous ne le mettrez pas en manque.
Oui.
Alors que vous, vous visez ça. Ça, c'est bien. Mmh. C'est un travail de la radio, ça, d'aller à l'endroit où c'est un peu sombre.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que de plus en plus, tous, je vous écoute et vous dissociez le phénomène, en fait, de la lumière qui va avoir des interactions au niveau du cerveau qui va vous empêcher de dormir avec le contenu. Et effectivement, on parle du contenu, d'un contenu violent d'un jeu vidéo, comme l'exemple excessif que je vous ai donné au début. Le lycée Bertrand de Born, pour connaître quelques enseignants, ont des soucis avec les contenus pornographiques qui donnent des choses absolument catastrophiques chez les tout jeunes, qui ont 8, 9, 10, 11, 12 ans. C'est le délire total dans leur tête. Et en fait, le contenu est extrêmement important également. Hein, parce que je pense que si vous comptez, vous apprenez votre table de multiplication sur un ordinateur, même si ça vous empêche 5 minutes de dormir, moi je sais pas, ça me ferait plutôt dormir, mais bon, ça c'est encore autre
chose. Oui, voilà. Mais
donc ça dépend bien des contenus.
Mais on parlait du cas de cet enfant qui justement dit à sa mère tu me laisses pas tuer l'ennemi.
Oui.
Mais il faut, je pense, ne pas faire une généralité. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue à un jeu de guerre, alors Call of Duty pour ne pas en citer, mais Call of Duty, qui joue à ce jeu, n'a pas forcément envie d'aller dans la rue et de tirer sur tout le monde.
Au contraire.
Au contraire, à l'école, il est pas du tout violent, hein, c'est vrai.
Et voilà. Et oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est que du coup, il me semble qu'il faut qu'on remette un petit peu les jeux vidéo dans le contexte du jeu. C'est-à-dire que quand même, c'est pas rien, c'est pas... Voilà, on a parlé de vidéo, finalement, avec les écrans bleus, etc. Mais c'est un jeu aussi, enfin, et donc il y a beaucoup...
Un loisir.
Et que il me semble que c'est un loisir, mais qui aussi arrive à une époque où il y a aussi, comme à toutes les époques, il y a le fossé des générations, et donc il y a aussi tous les gens qui s'inquiètent beaucoup de voir arriver ces jeux qu'ils ne connaissent pas, avec lesquels ils n'ont jamais joué, avec ces... Et du coup, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... L'horreur, est-ce que c'est quelque chose qui va effectivement entraîner de la violence si on joue à des jeux violents? Mais finalement, j'ai un de mes collègues qui me rappelait il n'y a pas très longtemps qu'il y a tout un tas de jeux de plateau, enfin de jeux qu'on peut jouer, avec lesquels on peut jouer en famille et qui peuvent susciter autant de violence et ça n'a pas tellement choqué les gens. Et au contraire, peut-être que les jeux, c'est fait aussi pour ça, pour y mettre des tas de choses et y mettre un peu de violence et pourquoi pas. À la limite, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il y ait plus de gens qui jouent aux jeux vidéo plutôt que de...
Il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait eu un peu un scandale en disant que à l'armée américaine, ils faisaient un recrutement en se basant sur des personnes, en essayant de recruter des personnes qui s'y connaissaient en jeux vidéo de guerre.
Ça continue.
Vous en pensez quoi?
Toujours. Écoutez, moi, ce que j'en pense, je vais faire des paradoxes un peu pour vous répondre. Je pense d'abord qu'un psychologue américain, Skinner, il fait une expérience avec des rats en les faisant se stresser et il arrive à leur donner un comportement adaptatif. Il a trouvé ça génial, il propose ça à l'armée en disant, sous le stress et tout, vous allez voir, les militaires, ils vont obéir, ils vont... Vous voyez, ça a commencé comme ça l'histoire des choses comportementales. Et il y a un général à la table qui dit... Oui, mais quand même, ils n'ont pas de liberté. Et là, le psychologue, il s'est levé en colère, il a dit, ah ben, si vous parlez de liberté, alors... Et les théories ont commencé. Vu mon âge, je peux vous dire que ça fait une cinquantaine d'années que ça revient sans arrêt, ça. Ça revient. Alors, il y a des réactions contre. Ce que j'en pense, c'est que formater des gens pour qu'ils aient un comportement adaptatif, c'est très facile. Bon. Mais... Je connais des sujets autistes qu'on amène à la campagne régulièrement, qui, quand ils sont dans des périodes de stress, vont sur un jeu vidéo, ça les apaise, et ils reviennent vers nous après.
On va continuer d'en parler après la première pause musicale.
Voilà, moi je vais vous apaiser avec « Joue pas ».
Sentir, il faut partir.
Alors, effectivement, c'est une musique tout à fait adaptée. Hein. Mes petits voisins, pendant la pause musicale, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oh, c'est bien choisi. Et on va aller voir un petit peu de ce que nous a ramené Aïda Dejex. Elle a été interviewée, un joueur qui est un ado. Hein, c'est vraiment en plein dans la catégorie. Il s'appelle Léo. Il va nous dire s'il est addict ou il n'est pas addict.
Au début, je vous demande de vous présenter. Bonjour.
Bonjour. Alors, je m'appelle Léo, j'ai 18 ans et donc je joue aux jeux vidéo.
Combien de temps par jour? Par exemple, combien vous pouvez consacrer du temps pour les jeux vidéo?
Je peux consacrer en semaine 2 heures par jour et après en week-end, ça peut monter à 5 heures si j'ai rien à faire.
À votre avis, c'est beaucoup ou non?
Ça peut paraître un peu beaucoup, mais moi, quand je joue, je vois vraiment pas le temps passer, donc...
Et pourquoi vous passez autant de temps? Qu'est-ce que ça vous apporte?
C'est un loisir, c'est comme une activité. Comme je disais, je vois vraiment pas le temps passer quand je joue. J'apprécie vraiment... Après, voilà, ça dépend les jeux aussi. On peut trouver plein de choses qui attirent.
Par exemple, quel type de jeu, sans trop citer les marques et les noms?
Il y a les jeux de guerre, où là, on va plus jouer sans rentrer dans le thème de la guerre. C'est surtout pour la précision, ou ce qui est intéressant. Après, il y a les jeux de stratégie aussi, où c'est aussi intéressant de développer, ça développe aussi ce qu'on pense, tout ça.
Et pendant ces jeux, est-ce que vous jouez tout seul ou c'est les jeux en ligne, comme on dit?
Il y a des jeux où on peut jouer tout seul, très bien, avec une histoire très bien, divertissante. Après, il y a les jeux en ligne où on peut partager même avec les autres. Il y a des jeux de stratégie en ligne aussi, où voilà, il faut prendre l'avis des autres aussi. Donc c'est intéressant aussi pour les relations. Hein.
Vous trouvez que ça crée les relations avec les autres joueurs?
Oui, ça peut. Moi, j'avais des amis que j'ai rencontrés juste virtuellement.
Vous vous souvenez depuis quel âge vous jouez à ces jeux-là?
Oui, ça a commencé quand j'étais en primaire, milieu primaire. Et déjà, ouais, je pensais beaucoup à jouer. Quand mon premier jeu, je me rappelle, je voulais vraiment juste rentrer chez moi pour jouer.
Et combien de temps, à l'époque, ça représentait de temps de jeu dans la journée?
Pareil, ça n'a pas vraiment changé, ouais. Donc 2 heures par jour, voilà. Après, mes parents, ils étaient un peu plus stricts au début, normal. Mais maintenant, voilà, je fais comme je veux, j'ai mon ordi dans ma chambre.
Et vous trouvez que c'est beaucoup ou non?
C'est beaucoup. Moi, je trouve non. Je trouve pas que c'est beaucoup.
Et si quelqu'un dirait que vous êtes addict aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous lui répondrez?
Je lui dirais oui, je pense. Mais addict, c'est peut-être un peu fort aussi, parce que je pense que je peux m'en passer.
C'est normal. Il y a plusieurs copains aussi qui font pareil, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà, c'est ça.
Dans votre entourage, est-ce que tous vos copains jouent pareil ou non?
Oui. J'ai beaucoup d'amis qui jouent. Après, il y en a qui ne jouent pas, mais oui, beaucoup.
Et en dehors de ce jeu vidéo, le reste de temps, parce qu'il y a les portables, les écrans, ça aussi, c'est un temps en plus. Est-ce que vous pouvez évaluer combien de temps vous utilisez les autres écrans?
Après, les autres écrans, je n'utilise pas trop. Mon portable, les réseaux sociaux, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Je joue, voilà, quand je m'ennuie, c'est tout.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment vous êtes pendant un moment de jeu?
Ça permet vraiment de déconnecter aussi. On ne voit pas le temps passer. On ne s'ennuie pas hein, quand on joue. Donc là, oui, de la satisfaction, ouais.
Et c'est facile arrêter et revenir dans la vie quotidienne?
Donc je suis au lycée, donc il faut que je travaille aussi. Et ça c'est un peu compliqué des fois. J'ai acheté un jeu avant le bac blanc et c'était vraiment une mauvaise idée. Je pensais qu'à jouer, j'arrivais pas trop à réviser. Donc ouais, c'est assez difficile quand on est vraiment dedans. C'est vrai qu'on peut parler d'addiction quand même, ouais.
Plusieurs personnes jouent au jeu et même pour si vous aviez un petit frère, qu'est-ce que vous direz s'il commencerait à jouer? Est-ce que vous conseillerez de continuer ou vous direz attention?
J'ai ma sœur qui est beaucoup sur les écrans. Je lui dis bouge un peu quand même parce que ça craint de rester là toute la journée sur l'écran alors qu'au final je fais un peu pareil quoi. Mais ouais non, il faudrait pas trop quand même. Limité, avec modération, quoi.
Et votre sœur, elle a quel âge?
Elle a 13 ans.
Il dit, à un moment, j'ai rencontré des amis virtuellement. Cette phrase, elle vous fait penser quoi?
Ça les inspire pas.
Si, rencontrer des amis virtuellement. Oui, je pense.
Ça rejoint les réseaux sociaux.
Exactement. Ouais. C'est là où en fait le lien social est pas du tout coupé. Et c'est ce que je pense souvent les joueurs de jeux vidéo mettent en avant pour peut-être un petit peu se battre contre l'idée peut-être un peu trop rapide d'enfermer tout ça autour des addictions. Les jeux vidéo, il y a quand même aussi un grand panel de jeux où en fait effectivement les gens sont en lien et où par exemple les adolescents qui ont passé du temps toute la journée ensemble peuvent se retrouver le soir effectivement via les jeux pour jouer ensemble, tout comme il y en a qui vont jouer au foot, etc.
Donc ça crée des liens.
Donc en tout cas, ça peut ne pas... là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ça coupe le lien.
Il le dit sans le dire, mais selon vous, il est addict? Il est addict aux jeux vidéo?
Moi, écoutez, je le trouve assez formidable, ce jeune. Il fait attention à sa sœur, il dit à le travail du lycée quand même. Et après, il dit « je suis un peu comme elle ». Bon, en fait, non, beaucoup moins quand même. Et je trouve assez un exemple où il n'y a pas, à mon avis, une addiction au sens du ravage. Il y a des sujets qui, à partir du virtuel, se séparent du lien social, par exemple. Où effectivement, alors là, ce n'est pas de la faute d'eux. C'est-à-dire que ça vient toucher dans sa fragilité un point qui était en retrait, refoulé, comme on dit des fois. Et tout d'un coup, il y a quelque chose devant lequel il ne sait pas répondre. Il y a un vide, et il s'engouffre là parce qu'il en entend parler. Mais lui, il va au contraire être en retrait, si vous voulez. Voilà, ce n'est pas le cas de tous. Et l'amitié virtuelle, je m'amuse beaucoup de Mythic. Vous connaissez Mythic?
En effet.
Ils font une pub extraordinaire. On peut être amoureux sans tomber amoureux. Il y a un coach qui vous empêche d'être malheureux en amour. Ça marche à fond la caisse.
Peut-on
J'y
être
crois
addict
pas.
De ces sites d'encontres?
Pardon?
On peut être addict de ces sites d'encontres?
Ben oui, il y en a.
Pour en citer un autre célèbre, alors est-ce qu'on peut considérer ça comme un site d'encontre? Tinder.
Oui, non, ce n'est pas un site de rencontre, mais si vous voulez, c'est des réponses.
C'est quoi alors?
Pour moi, il y a des réponses parce que notre civilisation va très mal, elle se rigidifie, et il y a plein de réponses. Il y a la secte de l'argent qui en trouve beaucoup, c'est comme ça que je l'appelle, si vous voulez. Hein.
Ouais.
Et qui crée, les gens dans la rue qui crient, hein, parce que ces réponses-là, ça amène les gens dans la rue qui sont insatisfaits, qui n'ont pas les moyens de s'inscrire. Il y a un site, par exemple, que vous connaissez, qui s'appelle OVS, que je trouve assez bien. On va sortir, hein, ça veut dire. Beaucoup de jeunes que je reçois s'y inscrivent. Ça ne se présente pas comme un site de rencontre amoureuse. Il y en a. Mais ça propose des choses culturelles, aller boire un pot. Je trouve que dans la poubellication sur Internet, c'est le mieux.
Et ça prouve du coup qu'on peut passer par Internet, mais pour après créer quand même du lien avec des vrais gens, comme on dit.
Hein, voilà.
Hein, ça gâche pas la relation, relations humaines.
Et non, ça gâche peut-être pas les relations humaines. C'est juste que ça y a une nouvelle modalité de rencontre, peut-être un peu avant la vraie rencontre. Mais peut-être à quoi il faut faire attention, c'est quand il y a plus du tout, en fait, effectivement, de vraies rencontres, qu'il y a plus du tout de lien social.
Vous pensez que ça apporte plus de retours positifs que négatifs, alors?
Plus. En tout cas, c'est peut-être pas dramatique.
Ouais. Vous voulez mesurer, hein? Vous avez plus, moins, avec un curseur. Vous avez
on va créer le sondage.
Non, mais vous avez bien compris qu'on n'est pas par là.
Oui.
Hein? Mais vous y revenez, je trouve ça très sympathique.
On va les retrouver dans quelques minutes par téléphone. Yann Leroux, qui est docteur en psychologie également, et, et étonnamment d'ailleurs, il va peut-être, on va essayer de lui faire dire
avant,
oui,
la différence entre psychologue et docteur en psychologie.
C'est autour des études, en fait. Docteur en psychologie, je pense que c'est quelqu'un qui a été du côté du doctorat.
D'une thèse.
Donc, du coup, il y a quand même 3 ans d'études après, sur un sujet bien précis. Après, on va dire les 5 ans qui permettent d'être psychologue.
Allez, on va le retrouver juste après la dernière pause musicale. Make Docteur Leroux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio Libre en Périgord. Je suis entouré de Joseph Zudas et Sandrine Latourès du CEID. Vous allez réagir, bien évidemment. On est sur une émission sur les addictions aux écrans bleus.
Et aux jeux vidéo.
On parle de jeux vidéo, bien sûr. On a parlé d'addiction également au téléphone portable. On balaye un petit peu tout ce qui est sous la longueur d'onde bleue. Et je crois que vous en connaissez ce qu'on appelle un rayon.
Oui, alors juste une précision, je suis docteur en psychologie, pas docteur en médecine, mais je traîne suffisamment dans les publications les addictions pour vous aider effectivement à balayer devant vos portes. Alors je vais vous rassurer tout de suite, en ce qui concerne les addictions au smartphone, les addictions à Facebook, les addictions à Twitter, etc. Tout ça fait partie des comptes de faits scientifiques. Ça n'a aucune sorte de validation.
Ah.
On a l'OMS qui a fait une publication disant que dans la prochaine classification internationale des maladies mentales, il y aura une addiction, un trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas eu sous les mains cette classification internationale des maladies mentales. Donc j'attends. Pour l'instant, c'est de la com. Il y a une discussion, il y a une âpre discussion autour de la définition de ce trouble, puisqu'il y a des chercheurs et des psychothérapeutes qui disent qu'il y a des personnes qui ne vont pas bien et qui utilisent les jeux vidéo comme moyen de traitement pour résoudre des problèmes liés à l'anxiété ou des choses comme ça. Et il y a d'autres, dont l'OMS par exemple, qui affirment que les jeux vidéo pourraient être des sources primaires d'addiction.
C'est exactement ce que mes voisins Joseph Zudas et Sandrine Latourès avaient comme opinion au début de cette émission. Néanmoins, vous ne pouvez pas nier que certaines longueurs d'onde du spectre, dans le bleu, a des conséquences importantes sur le sommeil.
Eh bien, bien sûr que si. L'idée que ça fait partie vraiment des, on appelle ça maintenant, on a même dû inventer un nouveau mot, on appelle ça les neuromythes. L'idée que les écrans bleus diffuseraient une lumière, les écrans des ordinateurs diffuseraient une lumière qui aurait un effet négatif sur le sommeil, c'est pas quelque chose qui a été vérifié en laboratoire. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Ça dépend très probablement du contenu de l'écran. Ça dépend du niveau d'activation de la personne. Donc, on n'a pas une réaction de cause à effet directe entre la luminosité des écrans et puis la qualité de sommeil des personnes derrière. En laboratoire, on a pu vérifier que dans certains cas, ça avait un effet qui était complètement inexistant.
Joseph Zudas.
Bonjour, Yann Leroux. Joseph Zudas, psychanalyste à Périgueux. Je vais vous raconter un petit conte rapide de scientifique. Certains artistes ont remarqué dans les expositions de peinture que les tableaux où le bleu dominait, ça se passe aux États-Unis, ce conte, étaient les plus vendus. Voilà, c'était le bleu qui... Et donc, ils en ont cherché la raison en s'adressant à des scientifiques américains qui leur ont dit « C'est très simple, c'est parce que le liquide amniotique de la maman est légèrement bleuté. » Et donc, il y a un rapport, sans doute, chez certains, primitif. Voilà, mon compte est terminé.
Alors, c'est vrai qu'on peut dire aussi, c'est que il y a eu une étude un peu qui a été faite sur les affiches de films qui sortent au cinéma. Il y en a beaucoup qui sont faites avec un fond bleu, puisque du coup, ça attire plus l'œil des passants.
Alors, là, je suis un petit peu comme un pitbull.
Écoutez, messieurs, vous êtes conscients que quand on parle de lumière bleue des écrans, on parle de lumière bleue qui n'est pas dans le spectre visible. Vous me parlez d'un bleu que l'on peut voir. On ne parle pas de la même chose.
Oui.
Alors, attention, dans le spectre, effectivement, il y a les ultraviolets, il y a un bleu très très foncé qui est peu visible, et puis ça va vers le bleu clair. Le bleu clair est utilisé en luminothérapie, justement parce que ça a des bienfaits. C'est dans, justement, à la limite de l'ultraviolet qu'on a des longueurs d'onde qui ne sont pas à peine visibles et qui sont assez destructrices. mais j'ai, moi, une étude de l'OMS qui date de mars 2016 devant moi et qui parle justement qu'au-delà de 5 heures par jour à cause de ces radiations bleues, on parle d'invasives et de voire addictives. Alors, il y a un écart entre ce que dit l'OMS et puis...
Ce que vous dites,
voilà.
Mais s'il n'y avait que moi qui le dirais, effectivement, ce serait très, très, très risible. Mais si vous allez sur Google et que vous cherchez, par exemple, la lettre ouverte que des chercheurs et des psychothérapeutes ont écrit à l'OMS, vous trouverez très précisément un argumentaire qui montre que la définition du trouble de l'addiction telle qu'il a été présentée par l'OMS pose plus de problèmes que de solutions. On confond on renverse les rapports de causalité, on confond les causes et les effets, on est en train de créer un trouble alors qu'on n'en connaît absolument pas la prévalence, etc. Tout ça, l'OMS le sait, et l'OMS le sait à tel point que lors de la première annonce de la création du trouble de l'addiction aux jeux vidéo, sur le site web, il y avait écrit, noir sur blanc, que effectivement les preuves tangibles de l'existence de ce trouble n'étaient pas sur la table, mais ce n'était pas tellement grave, on créait le trouble et on verrait en chemin. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, on encourage des études qui sont confirmatoires et on laisse de côté toutes les autres études plus cliniques qui montrent que ce ne sont pas les jeux vidéo qui créent des addictions, mais qu'il y a une partie des gamers qui ont des troubles et que parmi ces gamers, certains ont des temps de jeu qui sont excessifs.
Peut-être quand même, on pourrait se rassembler un peu sur plutôt les jeux que les lumières bleues, parce qu'effectivement, s'il est question de savoir si la lumière bleue est un problème, il me semble que nous tous, là, on n'est peut-être pas tellement à même pour pouvoir évaluer ça.
Plus que le plus grand producteur de lumière bleue, c'est le soleil.
Voilà. Bon, ouais. Alors donc si on fait un procès au soleil, on va avoir un petit peu de temps là. Je ne sais pas si on a du temps devant nous. Mais... Par contre... le contenu des jeux vidéo, là, peut-être les psychologues, les psychanalystes, enfin là, ils ont peut-être quelque chose à faire là-dedans.
Et puis
en
vous
tout
êtes
cas,
assez
dire...
familier avec ce monde-là.
Voilà, peut-être aussi. Et ce qui peut être intéressant, c'est dans le jeu vidéo, quel jeu peut être joué, quel jeu peut effrayer peut-être les parents plus que les adolescents d'ailleurs, ou les adultes d'ailleurs. Et quel est le problème? Parce que finalement, depuis le début, il me semble qu'il y a quelque chose qui serait important de dire, c'est peut-être la notion de degré, en fait, dans l'éventuelle addiction. Parce que là, on parle toujours des addictions, effectivement. Bon, est-ce que c'est une addiction? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des problèmes pour des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais des problèmes peut-être en amont. Et le jeu vidéo est utilisé effectivement peut-être pour essayer de s'isoler et d'essayer de s'y retrouver un peu dans ce monde compliqué pour la personne. Enfin bon, il y a des comportements qui sont extrêmes autour des jeux vidéo, et c'est peut-être ça qui peut être traité, mais il y a aussi des comportements qui ne sont pas du tout extrêmes et qui concernent peut-être, je ne sais pas, alors comme vous aimez beaucoup les chiffres, comme on disait tout à l'heure, alors moi je vous dis un chiffre qui ne correspond à rien, peut-être 80% des gens qui jouent n'ont absolument pas de comportement extrême, ils jouent. Et le jeune homme dont on entendait le témoignage tout à l'heure, qui nous racontait 2 heures par jour la semaine et 5 heures le week-end, effectivement je pense qu'il est un peu assez proche d'une population qui nous entoure. Et ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait, c'était « ça peut paraître beaucoup ». Ça, j'ai trouvé ça extra. C'est-à-dire, effectivement, ça paraît beaucoup pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Mmh. Ou qui ne sont pas du tout intéressés par les téléphones portables, comme on disait, les ordinateurs, etc. Mais lui, il ne voit pas du tout le temps passer, il ne s'ennuie pas. Et finalement, il y en a qui vont aller faire d'autres jeux ailleurs, faire d'autres activités. Et on va se dire, ça c'est super pour eux. Alors, bon,
Yann Leroux, vous jouez vous-même ?
Bah, Dieu merci, oui, je joue, je suis en bonne santé, donc bien sûr, je joue.
Dieu merci.
Écoutez, puisqu'il y a un psychanalyste à votre table, on peut rappeler Winnicott, quelqu'un qui va bien et quelqu'un qui joue. Et il se trouve que un des jeux les plus joués du 21e siècle, ce sont les jeux vidéo. Avant, on jouait à la belote, on jouait au tarot, etc.
C'est vrai.
Maintenant, on a des jeux vidéo.
Quel type
on
de jeux vidéo?
On joue aussi à la belote et au tarot, et on joue aussi à World of Warcraft. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait de jouer.
Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites depuis le début. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse balader par toutes ces fictions, comme vous l'avez dit, scientifiques, ou ces contes. Il y a plein de réponses. D'ailleurs, le marché mondial s'en sert hein, pour récupérer ce qu'on sait. La secte de l'argent, comme je l'appelle, et qui met les gens dans la rue en train d'hurler, ceux qui ne peuvent pas. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est l'impact que ça peut avoir pour quelqu'un qui s'installe là comme une réponse qu'il a trouvée à la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Quel type de jouissance il faut avoir ? Voilà. C'est plutôt ça. Ce que je reçois, en tout cas, si vous voulez, qui arrive dans des situations extrêmes. J'ai reçu quelqu'un 22 heures par jour, qu'il a été obligé de passer sur le billard parce que ses artères, ses vertèbres s'étaient bloquées. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a passé des années à épuiser un argent, un héritage d'un père qui était mort d'un accident de voiture. Et ça a pris fin, son addiction, avec la fin de cet argent. Aujourd'hui, il vend des instincteurs.
Et pourquoi vous appelez ça une addiction ?
Non, mais écoutez, voilà,
moi, ce que je vois, je ne veux pas parler de cas à la radio.
Ben,
Le truc qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est une question de relation d'objet. Ça n'a rien à voir avec l'addiction.
Par rapport
aux gens qui jouent d'accord. beaucoup, ce que l'on sait, c'est que les gens qui jouent beaucoup, il y a des quand on mesure la santé mentale, le bien-être des personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, parmi ces personnes, on trouve des gens qui ont une mauvaise santé mentale. Mais parmi les gens qui ne jouent absolument pas aux jeux vidéo, qui ont une trentaine d'années, on trouve des gens qui ont une santé mentale qui est encore plus dégradée.
Bien sûr,
on en revient au Winnicott. Quelqu'un qui ne joue pas et quelqu'un qui ne va pas bien. Qui joue beaucoup, ce n'est pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit malade et qui nécessite un traitement.
C'est pour ça que je parle de réponse trouvée à la question « qu'est-ce que vivre ?» Parce que quand il vient demander de l'aide, cette réponse se transforme en une autre.
Vous vous qualifiez de geek, mais addiction et geek ne veulent pas-ils dire la même chose ?
Non, pas du tout. Un geek, étymologiquement, c'est quelqu'un qui avait été, c'était un outcast, c'est quelqu'un qui est mis en dehors de la société, c'est quelqu'un qui était regardé bizarrement, et c'est quelqu'un qui était regardé d'autant plus bizarrement qu'il avait une espèce de fonction presque religieuse. C'était quelqu'un qui vivait auprès des machines et des ordinateurs. Les geeks ont humanisé les ordinateurs. Les ordinateurs, c'était juste des machines à calculer qui étaient faites pour faire la guerre. Et les geeks sont des gens qui ont fait un travail à l'intérieur de la culture pour dire que l'on pouvait faire autre chose que du calcul et que l'on pouvait faire des choses belles avec des ordinateurs. Dans les années 60, où le phénomène s'est cristallisé, c'était vraiment une révolution totale. Aujourd'hui, les geeks sont surtout caractérisés par un rapport passionnel.
On utilise ce terme justement pour dire, pour nommer quelqu'un
qui est... Je suis sûr qu'on trouvait chez les psychanalystes des geeks.
Bien sûr.
Et il est même possible que l'on trouve chez les psychanalystes des psychanalystes qui ne vont pas très bien.
Bien sûr.
Les mois derniers, on avait consacré une heure d'émission sur l'addiction au cannabis, puis on a parlé de l'alcool. Pour clôturer cette émission, parce que ça fait déjà presque une heure qu'on a commencé, vous voyez, ça passe très vite. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que les jeux vidéo, ça peut être comparé à une drogue ?
Nullement. Aucunement. C'est un rapprochement qui a été fait, et c'est un rapprochement forcé, qui a été fait à partir du jeu, d'abord à partir... L'addiction aux jeux vidéo a été rapprochée d'abord du jeu d'argent et de hasard, et ensuite a été rapprochée des addictions aux produits, mais ça ne marche pas, ne serait-ce que sur le plan biochimique, puisque quand vous prenez une dose d'héroïne, vous avez une libération très importante de dopamine, et lorsque vous jouez aux jeux vidéo, la libération de dopamine, elle est 200 fois moins importante.
C'est peut-être de l'adrénaline dans ces cas-là.
Hein ?
C'est peut-être de l'adrénaline dans ces cas-là, pour les jeux vidéo.
Alors, ça dépend à quoi vous jouez. Franchement, quand je joue à World of Warcraft, vous n'avez pas beaucoup de rush d'adrénaline. Et même ça, ça a été mesuré. On a mesuré les taux de cortisol salivaire après une session de jeux vidéo. Ils ne sont pas extraordinairement élevés. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui reste calme.
Sandrine Autourès, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Moi, il me semble que quand j'entends « est-ce que ça pourrait être assimilé à une drogue ?», j'entends un peu les parents qui viennent
au centre de soins. Ah oui, ça c'est les dires des parents,
ouais,
ça voilà.
Et qui sont très inquiets en disant « voilà, mon enfant joue aux jeux vidéo, ça se trouve, c'est un gros droguier, vite, occupez-vous de lui ». Et il me semble que là, dans ces cas-là, il s'agit de se poser un peu avec tout le monde et avec les parents souvent d'abord, pour savoir quel est la difficulté qu'ils rencontrent. A priori, quand même, les difficultés qui sont en lien avec les drogues sont d'un tout autre ordre.
Je suis tout à fait d'accord.
Joseph Judas, dernier mot.
Oui,
très rapide.
Merci Yann Leroux de votre apport que j'ai trouvé éclairant. Moi, je tiens à dire quand même que les solutions que trouvent les gens fragiles, si vous voulez, avec les jeux vidéo et qui s'y installent, la plupart du temps, ça sert à éviter un pire beaucoup plus grand. Et ce qui me paraît important, c'est le travail pour rassurer les parents et arriver à les aider, peut-être quand c'est souhaitable, à sortir de là. Mais en tout cas, ça permet d'éviter le pire.
Je vous remercie à tous d'avoir consacré près d'une heure de votre emploi du temps. Merci beaucoup Yann Leroux également d'avoir pris le temps par téléphone. Je vous dis à tous au revoir et merci encore une fois.